Donc voilà, donc il y a un impératif d'évangélisation qui est dit dans l'évangile de Luc, au chapitre de Marc, de chapitre 16, où Jésus demande explicitement aller dans le monde entier. Il le demande à ses apôtres, mais il le demande à toute l'Église pour que l'Évangile soit proclamé avec cet enjeu qu'aujourd'hui on a un peu perdu de vue parce que maintenant la chanson de Paul Naref a fait son effet. On ira tous au paradis. Elle a eu un bon effet parce que tout le monde y croit, donc il dit bon, je vois pas où est le problème. Or, en fait, Jésus a dit celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, celui qui refusera de croire sera condamné. Alors on n'est pas dans les cœurs des gens, parce qu'il peut y avoir des gens qui refusent de croire pour des bonnes raisons. Ils refusent de croire parce que, par exemple, nous, quand on leur a dit de façon très mal, très mauvaise, parce qu'on a été un contre-témoignage, etc., pour plein de raisons, parce qu'ils ont eu des blessures d'enfance, etc. Donc on ne peut pas juger, hein. Surtout que interdisons-nous de juger nos frères, même ceux qui refusent de croire. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que cette parole de l'Évangile est toujours vraie, et donc il nous faut proclamer pour que des gens accueillent Jésus dans leur vie et soient sauvés. C'est le moyen normal pour aller au ciel. Et saint Paul lui dira, à la première épître aux Corinthiens, il dira « En effet, annoncer l'Évangile, ce n'est pas là pour moi un motif de fierté, c'est une nécessité qui s'impose à moi. » Nécessité qui s'impose à moi. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. En fait, on va presque retourner le truc, c'est que là, c'est malheur à moi si je n'annonce pas l'Évangile. C'est-à-dire, en fait, si on ne fait pas ce travail d'annonce de l'Évangile, eh bien, nous sommes malheureux. On ne peut pas atteindre le bonheur promis par le Seigneur, hein, dès ici-bas. Donc c'est une nécessité qui s'impose à nous, il nous faut l'accueillir et la redécouvrir, parce qu'en fait c'est sans doute cela qu'il nous faut vivre. Le monde a besoin de l'amour de Dieu, c'est de rencontrer le Christ et de croire en lui. Évangéliser, c'est une nécessité parce que le monde en a besoin, c'est une nécessité parce que nous sommes appelés à cela par notre baptême. Ça tient à notre identité chrétienne elle-même, comme le disait le bienheureux Paul VI, et puis comme le dit l'Écriture aussi, et la demande de Jésus. Dans le Concile Vatican II, dans le décret Ad Gentes, il est écrit ceci, « La raison de l'activité missionnaire relève de la volonté de Dieu. » L'activité missionnaire de l'Église relève de la volonté de Dieu qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors évidemment, aujourd'hui, comme la théologie a progressé et que on voit bien qu'il y a des nuances dans le fait que ce n'est pas parce que quelqu'un n'est pas baptisé qu'il va aller automatiquement, qu'il ne va pas être sauvé, hein, puisque si ce n'est pas de sa faute, la miséricorde de Dieu est suffisamment large pour pouvoir réussir à le sauver. Mais, donc, alors, maintenant, comme il y a toutes ces nuances, et puis comme il y a aussi un discours un peu, comme je le disais à l'instant, un petit peu, qui nous a égarés un peu, qui fait croire que qu'on n'a que Jésus ou pas, c'est pareil, ça revient au même, il ne se passe rien. On va tous au paradis. Donc voilà. Or, il faut tenir un discours juste. Dieu veut sauver tous les hommes. Il va le faire autant qu'il le peut. Donc on ne peut juger personne. Même Pranzini, qui avait tué quelqu'un, qui était condamné, qui refuse le prêtre jusqu'au dernier moment, il est sauvé. Il est sauvé grâce à quoi ? Grâce à la prière de la petite Thérèse de Lisieux, qui n'avait demandé aucun signe, et pourtant, en lisant le journal La Croix, elle verra qu'au dernier moment, il demande la croix du prêtre pour l'embrasser trois fois, elle dira, c'est le signe qu'il va être sauvé. Il est sauvé. Alors, et elle dit, mais en fait, j'ai pas besoin de ce signe. Donc on ne peut pas juger, hein. On pourrait prier pour un criminel, comme pour un terroriste, tout ça, qu'il n'y ait aucun signe de conversion. Ça, c'est pas notre affaire. On prie avec foi, et il se passe des choses. Et donc, c'est là que c'est important. Donc, il ne faut pas juger, il ne faut juger personne. Par contre, il nous faut vraiment prier pour la conversion, pour que Jésus soit reçu dans les cœurs, par le moyen que Dieu veut. C'est notre nous qui avons accueilli Jésus, nous avons notre responsabilité, c'est intrinsèque à notre vocation, que de l'annoncer, que de le proclamer. car Jésus est là pour sauver. Récemment, j'ai eu, c'est une petite anecdote qui m'a beaucoup touché, mais c'est pas vieux, hein, c'est de 3 semaines peut-être, un couple de Vietnamiens, ils sont pas baptisés, il y a quand même des Vietnamiens, pas mal de Vietnamiens catholiques, mais eux, ils sont pas catholiques, ils sont sur la roche, ils débarquent à l'église, elle ne parlait pas bien français, lui parlait plutôt bien français, et lui me dit, mon épouse me demande de vous demander pourquoi Jésus est mort sur la croix. Alors c'était l'autoroute qui m'était proposée, parce que là après c'est facile. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Mais à cause de nous, il est mort pour nous sauver, parce qu'on était perdus, on était perdus. Alors je l'ai annoncé, j'espère que ça fait son chemin, ils ont fait leur visite, ils ont regardé beaucoup le chemin de croix d'ailleurs. Voilà. Mais en tout cas c'est notre mission de l'annoncer. Beaucoup de gens sont prêts à accueillir Jésus, mais si personne ne leur annonce. Bon, il ne faut pas que j'anticipe trop, parce que... Voilà. Ben si, je peux anticiper, parce qu'en fait, c'est le truc suivant. C'est qu'au Romains chapitre 10, versets 13-14, « En effet, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Il faut l'accueillir. « Or, comment l'invoquer si on n'a pas mis sa foi en lui ? Comment mettre sa foi en lui si on ne l'a pas entendu ? Comment l'entendre si personne ne le proclame ?» Voilà. Et finalement, au final, on ne peut pas juger ceux qui refusent Jésus. Par contre, nous, on peut savoir que peut-être on a péché par omission. Et peut-être que quand on sera devant Dieu, le Seigneur va dire « Mais comment ça se fait que tu n'as pas annoncé Jésus, quoi ? Tu avais peur de quoi ?» Et puis, c'est cette parole très, très forte de Jésus. Celui qui rougira de moi devant les hommes, je rougirai de lui devant le Père. Parole très forte, hein, qui nous dit que nous aussi, on a une responsabilité. Il ne s'agit pas de se faire peur, mais il s'agit de s'interpeller sur cette nécessité de l'évangélisation. Les hommes sont sauvés par Jésus-Christ, mais comme dit saint Augustin, Dieu t'a créé sans toi, mais il ne te sauvera pas sans toi. Donc ça veut dire que les hommes sont sauvés par Jésus-Christ, mais s'ils accueillent Jésus dans leur vie. Il faut donc l'annoncer, pour qu'ils puissent l'accueillir, pour qu'ils puissent vraiment être sauvés. Dieu ne veut pas sauver les hommes sans eux, donc il faut qu'ils puissent un moment dire oui. Alors la miséricorde de Dieu va inventer plein de choses, hein, le purgatoire, et puis aussi donc des moments qui nous échappent de fin de vie. Il se passe beaucoup de choses en fin de vie, hein. J'ai vu des choses étonnantes. Bon, mais le problème n'est pas là. Enfin, le problème, ça, c'est Dieu, il fait tout ce qu'il peut, mais nous aussi, il faut qu'on fasse ce qu'on peut. Tout ce que nous pouvons, nous devons le faire pour que Jésus soit annoncé toujours davantage, pour que l'Église soit belle et rayonnante. La conversion est le plus bel événement de la vie, même si c'est un élément, alors certains pourraient témoigner, même si c'est quelque chose qui peut bousculer beaucoup une vie. Paul Claudel, converti, racontera à un ami, une conversion, c'est une espèce de catastrophe. C'est un peu comme si on changeait de sexe. C'est fort, hein ? C'est une forme de catastrophe. Autant dire qu'il faut prier pour que les gens se convertissent, parce que c'est pas évident. Pas une affaire facile de dire oui à Jésus. On peut pas juger. Encore une fois, on peut pas juger. Hein. Je le dis, je le redis. De toute façon, quand on juge, on perd notre temps. Et puis, moi, je dirais, je serais un peu sévère, je dirais qu'on est en train de se damner quand on est en train de juger nos prochains. Même le pire. Par contre, il faut réaliser que la conversion, c'est compliqué. C'est une espèce, j'ai pris cette phrase parce que je l'ai trouvée forte, c'est une espèce de catastrophe pour les gens que ça arrive. D'ailleurs, il y a des gens, ils le diront, hein, d'un seul coup, tout est remis en cause dans leur vie, leur mode de vie, leurs relations, leur emploi du temps. Il faut qu'ils soient bien accompagnés par des bons chrétiens, hein, pour pouvoir garder les pieds sur terre et puis surtout de savoir ce qu'il faut faire. Mais voilà. Donc il faut prier pour eux. Donc il faut prier pour la conversion, il faut prier pour ceux qui se convertissent, parce que c'est compliqué. Donc l'Église a pour mission d'évangéliser, tout le peuple de Dieu est appelé. Le pape Saint Jean 23 dira en 1962 à la radio, « Le monde a besoin du Christ, l'Église doit apporter le Christ au monde. » Voilà, c'est vraiment notre vocation. Le bienheureux Paul VI dira aussi dans la même exhortation apostolique que tout à l'heure, « Gardons la ferveur de l'esprit, gardons la douce et réconfortante joie d'évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer. » Alors, un autre aspect, « Gardons la ferveur de l'esprit, gardons la douce et réconfortante joie d'évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer. » C'est-à-dire que l'évangélisation, c'est compliqué de se convertir, c'est une catastrophe qui arrive pour la personne qui se convertit, c'est plus beau cadeau qui lui arrive aussi, hein, on est d'accord. Mais parfois, il nous faut semer dans les larmes. L'affaire pour nous n'est pas facile, d'où la tentation de dire « pour les autres, Seigneur, que ce calice s'éloigne de moi, que d'autres évangélisent à ma place, ça m'arrange. » Alors, on est tenté de garder l'évangélisation pour les spécialistes de l'évangélisation, qui seraient les missionnaires, qui seraient les religieux, les prêtres. Alors, il faut qu'ils fassent leur boulot aussi, hein, ils ne le font pas toujours, je suis d'accord. Mais bon, en fait, c'est tous les baptisés, hein, qui sont appelés à évangéliser, mais il faut parfois semer dans les larmes. Les difficultés ne doivent pas nous empêcher d'évangéliser. Et en fait, nous trouvons la force d'évangéliser dans l'Eucharistie, dans la prière. Dans l'Eucharistie, mais dans la prière. Cette force que nous la trouvons. Mais parfois, voilà, il peut affronter des difficultés. Moi, je ne suis pas trop pour voir des signes partout, hein, parce que je pense que c'est assez piégé. Parce que quelquefois, on voit trop de signes, et puis finalement, ça nous écarte de l'essentiel qui est l'amour gratuit de Dieu. Hein, parfois, mais on ne peut pas ignorer le fait que quand on a un projet d'évangélisation fort, et c'est pour cela que je parle de l'évangélisation aux adorateurs à quelques semaines du festival missionnaire, quand on a un projet fort d'évangélisation, autant vous dire qu'il y en a un qui n'est pas content et qu'il va falloir se farcir. Il ne va pas capituler comme ça. Donc là, c'est la prière. La prière est indispensable. La prière, c'est notre socle, c'est notre rocher. Rien d'autre. La tempête peut souffler. La tempête peut souffler et normalement, elle soufflera. Et puis aussi, le vent de l'esprit, la brise légère de l'esprit, entrera dans les cœurs aussi, les deux ensemble. Mais voilà, il faut savoir qu'il est normal qu'il y ait du combat, qu'il y ait de la difficulté, qu'on doit semer parfois dans les larmes. Voilà, je vais y revenir, je pense que tout à un peu plus loin. Alors, je voudrais vous lire, j'espère que ce ne sera pas trop long, un extrait de l'exhortation apostolique « La joie de l'Évangile » du pape François sur la douce et réconfortante joie d'évangéliser. Donc, il reprend le titre au bienheureux Paul VI. « Le bien tend toujours à se communiquer. Chaque expérience authentique de vérité et de beauté cherche par elle-même son expansion. » Et chaque personne qui vit une profonde libération acquiert une plus grande sensibilité devant les besoins des autres. Lorsqu'on le communique, le bien s'enracine et se développe. C'est pourquoi celui qui désire vivre avec dignité et plénitude n'a pas d'autre voie que de reconnaître l'autre et chercher son bien. Certaines expressions de saint Paul ne devraient pas nous étonner. L'amour du Christ nous presse. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Il nous est proposé de vivre à un niveau supérieur, et pas pour autant avec une intensité moindre. La vie augmente quand elle est donnée, et elle s'affaiblit dans l'isolement et l'aisance. De fait, ceux qui tirent le plus de profit de la vie sont ceux qui mettent la sécurité de côté et se passionne pour la mission de communiquer la vie aux autres. Quand l'Église appelle à l'engagement évangélisateur, elle ne fait rien d'autre que d'indiquer aux chrétiens le vrai dynamisme de la réalité personnelle. Nous découvrons ainsi une autre loi profonde de la réalité, que la vie s'obtient et se mûrit dans la mesure où elle est livrée pour donner la vie aux autres. C'est cela finalement la mission, Par conséquent, un évangélisateur ne devrait pas avoir constamment une tête d'enterrement. Bon, on s'en prend plein la figure. Retrouvons et augmentons la ferveur, la douce et réconforte joie d'évangéliser, même lorsque c'est dans les larmes qu'il faut semer. Donc il reprend toujours la même exhortation apostolique de Paul VI, que le monde de notre temps, qui cherche tantôt dans l'angoisse, tantôt dans l'espérance, puisse recevoir la bonne nouvelle. Non d'évangélisateurs tristes et découragés, impatients ou anxieux, mais de ministres de l'Évangile, dont la vie rayonne de ferveur, qui ont les premiers reçus en eux la joie du Christ. C'est une éternelle nouveauté. Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont tièdes ou qui ne pratiquent pas, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice. Il dit quelque chose d'assez étonnant, c'est que même ceux qui ne pratiquent pas, il faudrait qu'ils évangélisent. Bon, il faut essayer de les convaincre de le faire. On peut toujours inviter les gens à le faire, parce qu'il dit que ça les renouvelle dans la foi. En réalité, son centre ainsi que son essence sont toujours les mêmes. Le Dieu qui a manifesté son amour immense dans le Christ mort et ressuscité. Il rend ses fidèles toujours nouveaux, bien qu'ils soient anciens. Il renouvelle leur force. Il déploie leurs ailes comme des aigles. Il court sans s'épuiser. Il marche sans se fatiguer. Ça, c'est les versets d'Isaïe. Le Christ est la bonne nouvelle éternelle. Et il est le même hier et aujourd'hui et pour les siècles. Mais sa richesse et sa beauté sont inépuisables. Il est toujours jeune et source constante de nouveautés. L'Église ne cesse pas de s'émerveiller de l'abîme de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. Saint Jean de la Croix disait « Cette épaisseur de sagesse et de science de Dieu est si profonde et immense que, bien que l'âme en connaisse quelque chose, elle peut pénétrer toujours plus en elle. » Ou encore, comme l'affirmait saint Irénée, dans sa venue, le Christ a porté avec lui toute nouveauté. Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler notre vie et notre communauté, et même si la proposition chrétienne traverse des époques d'obscurité et de faiblesse ecclésiale, elle ne vieillit pas. Jésus-Christ peut aussi rompre les schémas ennuyeux dans lesquels nous prétendons l'enfermer, et il nous surprend avec sa constante créativité divine. Chaque fois que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur originale de l'Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives, d'autres formes d'expression, des signes plus éloquents, des paroles chargées de sens renouvelés pour le monde d'aujourd'hui. En réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours nouvelle. Bien que cette mission nous demande un engagement généreux, ce serait une erreur de la comprendre comme une tâche personnelle héroïque, puisque l'œuvre est avant tout la sienne. Au-delà de ce que nous pouvons découvrir et comprendre, Jésus est le tout premier et le plus grand évangélisateur. Ça, je vais revenir tout à l'heure sur le fait que c'est le travail de Jésus et pas notre travail que d'évangéliser. Alors que nous avons notre mission d'évangéliser, notre appel fort, mais en même temps c'est le travail du Seigneur. Dans toute forme d'évangélisation, la primauté revient à Dieu, qui a voulu nous appeler à collaborer avec lui et nous stimuler avec la force de son esprit. La véritable nouveauté est celle que Dieu lui-même veut produire de façon mystérieuse, celle qu'il inspire, celle qu'il provoque, celle qu'il oriente et accompagne de mille manières. Dans toute la vie de l'Église, on doit toujours manifester que l'initiative vient de Dieu, que c'est lui qui nous a aimés le premier et que c'est Dieu seul qui donne la croissance. Cette conviction nous permet de conserver la joie devant une mission aussi exigeante qui est un défi prenant notre vie dans sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même temps, elle nous offre tout. C'est Dieu qui fait la croissance, et c'est vrai que l'adoration eucharistique est un lieu qui peut nous aider à comprendre cela. C'est Dieu qui a l'initiative. Nous ne devrions pas non plus comprendre la nouveauté de cette mission comme un déracinement, comme un oubli de l'histoire vivante qui nous accueille et nous pousse en avant. La mémoire est une dimension de notre foi que nous pourrions appeler deutéronomique par analogie avec le mystère d'Israël. Jésus nous laisse l'Eucharistie comme mémoire quotidienne de l'Église, qui nous introduit toujours dans la Pâque. La joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante. C'est une grâce que nous avons besoin de demander, d'être dans la reconnaissance, dans l'action de grâce. Les apôtres n'ont jamais oublié le moment où Jésus toucha leur cœur. C'était environ la 10e heure, nous dit l'évangile de Jean. Avec Jésus, la mémoire nous montre une véritable multitude de témoins. Parmi eux, on distingue quelques personnes qui ont pesé de façon spéciale pour faire germer notre foi croyante. Souvenez-vous de vos chefs, ceux qui vous ont fait entendre la parole de Dieu, nous dit l'Épître aux Hébreux. Parfois, il s'agit de personnes simples et proches qui nous ont initiés à la vie de la foi. J'évoque le souvenir de la foi sans détour qui est en toi, foi qui d'abord résida dans le cœur de ta grand-mère Loïs et de ta mère Eunice. Ça, c'est dans la 2e épître à Timothée, qu'il est dit, où il fait évoquer la foi des autres qui lui ont communiqué. Le croyant est fondamentalement quelqu'un qui fait mémoire. Il met en relief plusieurs mémoires. La première mémoire la plus puissante, finalement, c'est la mémoire eucharistique. Dans l'Eucharistie, tout est donné, tout est redonné, tout est remis présent. Et puis ensuite, toutes les mémoires de ces saints qui nous ont communiqué la foi, qui ont prêché, et aujourd'hui, c'est nous, c'est notre génération, qui devons de nouveau prêcher et communiquer la foi à ceux qui sont nos contemporains. Notre famille, mais pas uniquement, parce que parfois, on n'est pas prophète dans son pays. Compliqué, parfois. C'est pour ça qu'il ne faut pas se limiter simplement à sa famille. Voilà. Alors, vocation, la mission, c'est la vocation de tous les chrétiens. Nous avons besoin de saints. Alors, je vous cite un petit passage, alors court, ce coup-ci, petit passage de Saint Jean-Paul II aux évêques d'Europe en 1985. Pour faire fleurir une ère nouvelle d'évangélisation sur l'Europe, il faut aujourd'hui des évangélisateurs particulièrement bien préparés. Nous avons besoin de héros de l'Évangile, experts en humanité, qui connaissent à fond le cœur de l'homme d'aujourd'hui, et en même temps qui soient des contemplatifs amoureux de Dieu. C'est pourquoi il nous faut de nouveau des saints. Les grands évangélisateurs de l'Europe ont été des saints. Nous devons supplier le Seigneur d'accroître l'esprit de sainteté dans l'Église et de nous envoyer de nouveaux saints pour évangéliser le monde d'aujourd'hui. Alors donc, là déjà, deux missions. Prier pour que le Seigneur envoie des nouveaux saints dans son Église, pour que l'Église se remplisse de saints, et nous-mêmes, prier pour que nous progressions concrètement dans la sainteté. Voilà. La nécessité de l'évangélisation, la nécessité de... Nous sommes appelés à l'évangélisation. Si l'Église... Alors, Benoît XVI qui dit ça, si l'Église devient authentiquement eucharistique, elle deviendra missionnaire. Ça me permet de faire la transition avec la deuxième partie. L'adoration eucharistique, l'eucharistique et l'adoration eucharistique qui nous aide, qui aide notre Église à devenir eucharistique, permet de devenir missionnaire. Alors, les raisons d'adorer pour la mission, pour l'évangélisation. Donc, c'est plusieurs points. Alors, premier point, l'intercession. Il nous faut prier parce que tout dépend de Dieu. Première raison. Alors, ce matin, ceux qui étaient à la messe avec moi, enfin, ceux qui ont entendu mon homélie, je recite le même passage de Thérèse de Lisieux. Un savant a dit « Donnez-moi un levier, un point d'appui, et je soulèverai le monde. » Ce qu'Archimède n'a pu obtenir, parce que sa demande ne s'adressait point à Dieu, et qu'elle n'était faite que du point de vue matériel, les saints l'ont obtenue en toute la plénitude. Le Tout-Puissant leur a donné pour point appui, lui-même et lui seul, pour levier l'oraison, la prière, qui embrase d'un feu d'amour. Et c'est ainsi qu'ils ont soulevé le monde. C'est ainsi que les saints encore militants le soulèvent, et que jusqu'à la fin, le monde, les saints à venir le soulèveront aussi. Donc voilà, la prière comme levier pour soulever le monde, pour attirer le monde à Dieu, parce que tout dépend de lui. Donc la prière, c'est un peu comme si on ouvrait le ciel pour que la grâce descende sur notre monde, comme si on rapprochait le monde de Dieu. Thérèse d'Avila dira « Une âme qui s'élève, élève le monde ». À peu près la même chose. C'est-à-dire qu'il y a ce travail de prière qui nous ouvre à Dieu et qui permet au monde de se rapprocher de Dieu avec nous. Et puis Thérèse de l'Enfant Jésus développe aussi ce thème en parlant d'un verset du Cantique des Cantiques qui dit « Attirez-moi et nous courrons ». Donc il dit à Dieu, enfin le Cantique des Cantiques dit « Attirez-moi et nous courrons ». Donc elle est toute seule, elle demande à Dieu de l'attirer, et nous courons, ça veut dire qu'en laissant attirer, il y a plein de monde qui va se laisser attirer avec. Voilà, c'est toujours la même idée. Hein, mais ce qu'il faut bien voir, c'est un des aspects, hein, prier parce que tout dépend de lui, et parce que, en fait, en faisant cela, on fait un service mondial de salut. Le deuxième point, il faut prier parce que c'est un gigantesque combat. Alors, on n'aime pas trop cette image. Je l'ai utilisée récemment dans un enseignement des fraternités paroissiales. J'ai eu un retour me disant que certains trouvaient que l'image n'était pas géniale. Le problème, c'est que la réalité du combat spirituel... Dans la tradition de l'Église, c'est plus qu'implanté, hein. C'est omniprésent. Devenir chrétien, c'est pas pour, comme dira le pape François, pour s'installer dans une banquette douillée, de façon douillette. C'est rentrer dans une démarche qui est une démarche engageante, qui nous dépasse, mais qui est fructueuse, mais qui est très engageante. Mais le Seigneur nous comble, hein, on reçoit au centuple aussi. Le Seigneur nous le dit aussi. Il nous comble. Mais en même temps, voilà, il faut semer parfois dans les larmes, comme je le disais tout à l'heure. C'est un gigantesque combat, un combat qui nous dépasse, dont nous ne mesurons pas l'ampleur. Pour en avoir une petite idée, je vous conseille de relire le livre de l'Apocalypse, qui est le livre qui raconte un peu le combat d'un dernier temps, hein, c'est-à-dire qu'il y a le combat obtenu par Jésus, hein, qui c'est lui le sauveur, l'unique sauveur. Mais ensuite, il y a le combat des enfants, de ceux qui sont les fils de Dieu. Ceux qui sont sauvés par Jésus-Christ. Et l'Apocalypse décrit cette dernière étape de combat, ce combat déjà obtenu, et pourtant en train de s'accomplir. Mais les enfants, nous sommes le corps du Christ, en tant que membres de l'Église, nous sommes les corps du Christ, et nous participons au combat de notre Seigneur, qui est déjà gagné, mais quand même nous devons y participer, d'une manière ou d'une autre. Il y a un véritable combat, il y a des obstacles. Et donc, voilà, il ne faut pas que ça nous étonne, ça fait partie de la vie. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé en 1991 à Denver, les JMJ de Denver avec le pape Jean-Paul II, c'est justement le fait qu'il avait parlé, le 15 août, il avait parlé de la queue du dragon qui continue à balayer le monde. Disant que voilà, bon, c'est une réalité, n'ayez pas peur. Le Christ a vaincu, aucun problème. Là-dessus, il faut être très très clair, c'est-à-dire que le problème, c'est pas de savoir si on va gagner ou si on va perdre, parce qu'on sait qu'on va gagner. Seulement, le problème, c'est de participer. Mais quand on est dans une armée, alors on n'aime pas beaucoup l'image, mais en même temps, voilà, ça parle quand même, quand on est dans une armée qu'on sait qu'on va gagner, bon, il faut aller à la bataille, quoi. Je veux bien qu'on laisse Jésus tout seul. Vas-y, devant. Oui, meurs sur la croix. Termine le travail. Mais bon, voilà. S'il nous invite à participer, eh bien participons. C'est un beau cadeau, puis ça montre qu'on lui est reconnaissant et puis qu'on l'aime. Voilà. Alors l'Écriture nous donne les moyens de la victoire dans ce combat. Alors je vais reprendre le texte qu'on a entendu ce matin à la messe de ce matin, dans la première lecture. Parce que c'est un texte qui parle bien du combat, justement, et de manière de gagner le combat. Donc c'est le livre de l'Exode, Exode au chapitre 17. Les Amalécites survinrent et attaquèrent Israël à Réphidim. Moïse dit alors à Josué, « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. » Les Amalécites dans l'Ancien Testament, Amalek, c'est le symbole du mal, par excellence. On ne sait pas qui c'est ce peuple, mais c'est le symbole, c'est dans la symbolique biblique, c'est le symbole du mal qui veut détruire Israël. Donc, voilà. « Choisis des hommes et va combattre les Amalécites. Moi, demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit. Il mena le combat contre les Amalécites. Moïse, Aaron et Hur étaient montés au sommet de la colline. Quand Moïse tenait la main levée, Israël était le plus fort. Quand il la baissait et la laissait retomber, Amalek était le plus fort. Alors, savoir que la position de la main levée, des mains levées comme ça, c'est l'attitude du priant. Le priant, on retrouve ça aussi dans les catacombes antiques. On ne faisait pas encore des représentations chrétiennes, mais on faisait l'église d'une femme, comme ça, dans cette attitude-là, c'était l'église priante, c'est-à-dire les fidèles qui prient, hein, pour les martyrs, etc. Mais, voilà, donc c'est l'attitude, la main levée, c'est l'attitude de la prière. Donc voilà, quand il tenait les mains levées, Israël était le plus fort, quand il les laissait retomber, Amalek était le plus fort. Mais les mains de Moïse s'alourdissaient. On prit une pierre, on le plaça derrière lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur lui soutenaient les mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Ainsi, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil et Josué triompha des Amalécites au fil de l'épée. Donc voilà, dans cette récit qui porte une force symbolique, voyons que le combat contre le mal, si on garde l'image du combat, on pourrait dire que Jésus a gagné la guerre, mais on peut perdre des batailles. On dit l'inverse, on a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. Mais là, on peut dire l'inverse, on peut dire Jésus a gagné la guerre, mais nous, on peut perdre des batailles. Donc c'est là qu'il faut intervenir. Il faut aller sur le terrain, il y a un combat spirituel, et donc, en ce qui concerne les adorateurs, eh bien, prier, c'est faire comme Moïse, se tenir sur la montagne de la transfiguration, et faire en sorte que Israël gagne, faire en sorte que l'Évangile pénètre les cœurs, alors que tout peut s'y opposer. Donc c'est un aspect important. Comme Moïse, dans le combat, il faut lever les bras vers Dieu pour gagner la victoire. L'intercession est inséparable de l'action sur le terrain, parce qu'on voit qu'il y a deux choses, hein. Il y a à la fois le combat sur le terrain et puis Moïse qui prie, mais il faut rester et durer comme Moïse. Donc Moïse, à un moment, il n'en peut plus. Donc il se fait aider. Et la chaîne d'adoration est un peu cette image-là, voilà. On sait, parce qu'on ne pourrait pas, un tout seul, ne pourrait pas prier tout le temps, hein, comme ça. Donc, en faisant une chaîne, eh bien, on s'entraide, un peu comme si on se tenait les bras les uns des autres, pour pouvoir tenir dans ce combat. Prier et intercéder pour les hommes, comme si nous avions déjà reçu l'exaucement. Hein, Moïse, il savait que s'il tenait comme ça, eh bien, il permettrait aux Israélites de gagner. Voilà, adorer, c'est aussi intercéder pour le peuple, pour le monde, intercéder pour le monde. Dieu veut que tous soient sauvés, c'est son Fils qui nous sauve. Et c'est aussi, finalement, nous pouvons nous aussi, pour continuer toujours sur la même image, nous considérer comme Aaron et Hur qui tenaient les mains de Moïse, et en sachant que ses mains, c'est les mains de Jésus. C'est la croix, le mystère de la croix. Donc voilà. Soutient les bras de Jésus. Voilà, donc c'est important. Parce que c'est un immense combat, donc c'est pour cela qu'il nous faut prier, adorer, pour l'évangélisation. Adorer, alors pourquoi je dis qu'on peut perdre une bataille? Tout à l'heure j'ai dit ça. Jésus, il a dit, dans l'évangile d'aujourd'hui, quand je reviendrai, est-ce qu'il y aura encore la foi sur la terre? C'est une question très surprenante de la part de Jésus. Et c'est vrai que s'il a gagné, il a gagné, il y a des batailles qui peuvent être perdues. Et nous savons qu'il y a certaines régions du monde, comme par exemple l'Afrique du Nord, qui a été très chrétienne, et aujourd'hui, il n'y a presque plus de chrétiens. Et ceux qui sont là-bas ne peuvent même pas faire sonner les cloches pour dire qu'il y a la messe. C'est interdit. Donc on voit bien qu'il y a des batailles qui peuvent être perdues. Et là, c'est pour cela que c'est quand même très très important de prendre, à la fois de partir gagnant, parce qu'on est gagnant, et en même temps de prendre vraiment notre responsabilité. Je pense que la France, il y a deux possibilités pour l'avenir. Soit, moi je suis plutôt, donc je pars vraiment gagnant, hein. Soit il y a un réveil spirituel de notre pays, et comme dit Marthe Robin, de nouveau des missionnaires partiront dans le monde entier de France, on ne sait pas quand, hein, mais peu importe. Soit, mais vous savez, une prophétie même de Marthe Robin, elle peut ne pas s'exaucer. Hein. Les prophéties, ce n'est pas des tours de magie, comme si on était contraint et forcé. Si on ne prend pas notre responsabilité, il ne se passera rien. La deuxième possibilité, donc, c'est qu'en fait, le christianisme disparaisse. Je ne suis pas dans la thèse du grand remplacement pour autant, hein, j'en sais rien, moi, mais en tout cas, même si c'est l'athéisme qui gagne sur le terrain, je ne vois pas ça mieux, dans tous les cas. Donc voilà, il y a une vraie démarche, une bataille à mener, qu'il nous faut mener, il nous faut nous réveiller pour cela. Voilà. Adorer, c'est permettre à Jésus d'agir dans son Église. Alors dans l'Épître aux Hébreux, c'est Jésus qui prie. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7, c'est Jésus qui prie. Jésus, lui, parce qu'il demeure pour l'éternité, possède un sacerdoce qui ne passera pas. C'est pourquoi il est capable de sauver d'une manière définitive ceux qui, par lui, s'avancent vers Dieu. Il est toujours vivant, Jésus, pour intercéder en leur faveur. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est adorer, c'est permettre à Jésus d'agir dans son Église. Adorer, c'est prier au nom de Jésus. C'est Jésus qui prie en nous. Vous savez qu'on ne peut pas prier sans l'aide du Saint-Esprit. C'est Jésus qui prie. Donc adorer, c'est permettre à Jésus de prier, mais d'imprégner notre terre de sa prière. Et quand on célèbre l'Eucharistie, c'est Jésus qui agit. Et donc, c'est permettre à Jésus d'agir. Alors donc, c'est Jésus qui prie, et dans son Église, dans l'Église, eh bien, Jésus continue d'agir. C'est Jésus toujours qui soigne, comme dans les Évangiles, qui continue à soigner ceux qui souffrent. C'est Jésus qui proclame le royaume de Dieu, qui évangélise. Voilà. Et ça, adorer, c'est permettre à Jésus de faire tout cela, parce que nous le faisons dans le domaine de la prière, nous le faisons réellement, et puis nous cherchons à le faire aussi dans notre vie. Mais parfois, il est bon de se rappeler que Jésus, sans nous, il est sans bras. Il n'a plus de bras, il ne peut plus agir, il ne peut plus rien faire. Nous sommes membres de son corps. Nous sommes ses mains. Nous sommes sa parole. Et nous sommes aussi son visage. C'est-à-dire que si nous donnons une mauvaise image, c'est un mauvais visage de Jésus, et les gens ne peuvent pas l'accueillir. Voilà, nous sommes tous là. Voilà. Quand nous adorons Jésus présent dans l'Eucharistie, et c'est le même qui dit sur la croix, j'ai soif. C'est une des dernières paroles de Jésus, juste avant qu'il dise, c'est l'avant-dernière, juste avant qu'il dise, maintenant tout est accompli. Il dit, j'ai soif. Vous savez que c'est ce qui est écrit dans toutes les chapelles des sœurs missionnaires de Sainte Thérèse, Mère Thérésa, Sainte Mère Thérésa. Toutes les chapelles, il y a ça, il y a la croix, puis à côté, il y a, je suis très mauvais en anglais, I trust, ou je ne sais pas quoi, là. J'ai soif. Et pour les sœurs, c'est vraiment Jésus Eucharistie, parce qu'elles adorent beaucoup, elles font beaucoup de temps d'adoration. C'est Jésus Eucharistie qui dit « j'ai soif, soif de notre amour », la raison pour laquelle on se met devant le Seigneur pour adorer, Et c'est aussi le pauvre, et pour nous aussi, et puis aussi pour elle, tous ceux qui n'ont pas accueilli Jésus, qui disent aussi « j'ai soif ». Ils ont soif. Donc après cela, sachant que tout désormais était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse, jusqu'au bout Jésus dit « j'ai soif ». Cet appel, nous l'entendons en adorant. Il a soif de notre amour et il a soif de l'amour de tous les hommes. Comme le dira Jésus à Sainte Marguerite Marie à la Coque, dans ce qu'on appelle la grande apparition de juin 1675, « Voilà ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser et se consommer pour leur témoigner son amour. Et pour reconnaissance, je ne reçois de la plupart que des ingratitudes, par leur irrévérence et leur sacrilège, par leur froideur et les mépris qu'ils ont pour moi dans ce sacrement d'amour. Mais ce qui m'est encore le plus sensible est que ce sont les cœurs qui me sont consacrés qui en usent ainsi. » Alors bon, c'est les consacrés. Donc on trouve ça aussi chez Sainte Faustine aussi. Hein. Il y a des paroles fortes là-dessus. Jésus demande une fête particulière, voilà, pour après l'octave du Saint-Sacrement, le Sacré-Cœur. En tout cas, tout ça pour dire que le cri de Jésus « j'ai soif » est une réalité et qu'il a soif de notre amour. Il faut savoir que beaucoup d'entre nous, y compris dans les consacrés, eh bien, sont indifférents à cette soif de Jésus. Ils n'y répondent pas. Voilà, ça c'était le premier point, l'intercession. Deuxième point, la transfiguration. Piggy écrit « Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme mauvaise. » Bon, déjà une âme mauvaise, on n'aime pas. Hein. « C'est d'avoir une âme habituée. » Il y a quelque chose de pire que d'avoir une âme mauvaise, c'est d'avoir une âme habituée. Et l'adoration nous protège de l'habitude, je pense. Parce que quand vous aurez l'habitude, et quand vous irez par habitude, vous arrêterez d'y aller. Vous vous désinscrirez de l'adoration, tout simplement. Donc en fait, l'adoration, comme c'est un acte gratuit, un plus, quelque chose de contraignant, chose qui nous engage, eh bien, ça nous protège et ça nous aide à rester dans cette ferveur, même si c'est difficile, hein, même si parfois on sent rien. Hein, mais quand même, il y a une vraie ferveur, le fait qu'on continue, il y a une ferveur. Et donc, voilà, il faut savoir que les âmes habituées, il n'y a pas pire. Hein. Donc, d'accord, voilà. Et l'adoration nous protège et l'adoration nous transfigure, comme dans le récit de la transfiguration. Hein, donc c'est pour ça que l'oratoire, on l'appelait l'oratoire de la transfiguration, parce que ça nous transfigure progressivement. Saint Ignace d'Antioche parlait des chrétiens comme de ceux qui vivent selon le dimanche, c'est-à-dire selon l'Eucharistie du dimanche, l'Eucharistie dominicale, cette Eucharistie qui doit irradier toute la vie du chrétien et transformer la vie du chrétien. Ce qui aide cette transformation pour se réaliser en nous, c'est l'adoration eucharistique aussi. Donc ça nous empêche de nous habituer, et puis ça aussi, ça nous aide à intégrer cette transformation de l'Eucharistie, nous aide à vivre, comme le dit Saint Ignace, comme un dimanche. Ceux qui vivent selon le dimanche, le Seigneur, de vivre comme des chrétiens sauvés. Parce que parfois, il y a des chrétiens qui donnent l'impression qu'ils ne sont pas sauvés. Tout va mal. Il n'y a pas. Donc voilà. Alors, dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, saint Paul écrit ceci: quand on se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Et nous tous qui n'avons pas le voile sur le visage, nous reflétons la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en son image, avec une gloire de plus en plus grande par l'action du Seigneur qui est Esprit. Hein, donc c'est vraiment, j'ai pris cette citation pour illustrer ce travail de transfiguration que le Seigneur réalise par le dimanche, par l'Eucharistie dominicale, qu'on peut renouveler évidemment tous les jours de la semaine, et puis par l'adoration eucharistique. Tout ça, c'est pour nous aider à laisser féconder notre vie. Et donc cette transfiguration de notre vie, ça déborde. Ça déborde. Jésus dit à Sainte Faustine, « Quand une âme s'approche de moi avec confiance, je la comble de tant de grâces qu'elle ne peut les contenir toutes et qu'elle les projette sur d'autres âmes. » Donc voilà, par le travail de transfiguration, de participation à l'Eucharistie, à travers l'adoration, eh bien, en fait, il y a des choses qui se projettent, qui rayonnent. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2, saint Paul dit « Je vis, mais ce n'est plus moi, c'est le Christ qui vit en moi. » Voilà, c'est ce que le Seigneur veut faire, en fait. Il veut transformer notre vie tellement. Hein, c'est le chemin de la sainteté. Hein, mais, voilà. Et ça, pour cela, il nous faut nous laisser faire, prendre du temps. Et le Christ demandera à sainte Faustine de témoigner. Nous devenons témoins lorsque nos actions, nos paroles, nos comportements, lorsque par ces comportements, par ces actions, par nos paroles, un autre transparaît et se communique. On peut dire que le témoignage est le moyen par lequel la vérité de l'amour de Dieu rejoint l'homme dans l'histoire, l'invitant à accueillir librement cette nouveauté radicale. Donc ça nous transforme et ensuite ça se communique. Voilà. Un autre aspect encore, l'adoration nous fait prendre conscience du changement que Dieu apporte dans notre vie. Le pape François, dans La Joie de l'Évangile, au numéro 121, dit « Ton cœur sait que la vie n'est plus la même sans lui, alors ce que tu as découvert, ce qui t'aide à vivre et te donne une espérance, c'est cela que tu dois communiquer aux autres. » Donc, ce changement, cette prise de conscience du changement, bien ensuite, nous sommes invités à le communiquer. Prier, adorer pour agir et annoncer. En fait, l'adoration, lorsqu'on le vit bien, et c'est le cas, je pense, l'adoration, quand on le vit bien, nous exerçons notre fonction sacerdotale, notre capacité de prier dans l'Esprit Saint. Ça, c'est dans la grâce du baptême. Et puis, vous savez qu'il y a trois fonctions hein, que le prêtre exerce de façon particulière, mais que le fidèle aussi exerce d'une façon particulière, que le prêtre aussi, en tant que baptisé, exerce aussi comme ça, entre autres. Donc, première fonction, c'est la prière, que l'on manifeste par notre prière quotidienne et par l'adoration eucharistique. Le deuxième, c'est la fonction royale. Donc ça, c'est la première, c'est la fonction sacerdotale. Deuxième, c'est la fonction royale, qui est le fait d'être libre pour servir, libre pour conduire sa vie, mais non pas selon des égoïsmes et selon les plaisirs de notre monde, les facilités de notre monde, mais pour faire des choix qui soient des choix hors du commun, dans le service, servir notre frère, pardonner à ceux qui nous font du mal, servir ceux qui nous font du mal, etc. Comme on a de plein d'exemples aujourd'hui dans l'Église, hein, dans les martyrs d'aujourd'hui. Donc c'est la fonction royale. Et puis la fonction prophétique. Fonction prophétique, c'est la fonction justement de l'évangélisation. C'est le fait de proclamer Jésus-Christ mort et ressuscité pour sauver. Et ces trois fonctions, donc ça c'est commun à tous les baptisés, hein, et ces trois fonctions s'imprègnent. Si vous vivez bien la fonction sacerdotale, eh bien, la fonction royale, normalement, si vous vivez ça de façon juste, eh bien, la fonction royale va aussi évoluer. Vous rentrerez plus dans une démarche de service, de désintéressement, d'amour du prochain, avec des choix courageux parfois. Et puis après, vous entrerez aussi dans cette fonction prophétique qui est celle d'annoncer Jésus-Christ au monde d'aujourd'hui. Donc, prier, c'est permettre d'entrer dans les autres fonctions. Dans les autres fonctions de notre baptême, hein, ça permet de cheminer dans ces autres fonctions. Il faut savoir aussi que la prière elle-même et l'adoration elle-même a une force d'exemple. Ce matin, j'en parlais un petit peu dans l'homélie. Saint Charbel dit ceci. Mais soyez sûrs que ce ne sont pas les paroles qui inciteront les gens à monter à bord du bateau du Seigneur. Mais votre confiance, votre foi en lui, et la joie qui transparaît sur vos visages. Donc voilà, soyons sûrs que, qu'en fait, il y a un exemple de la prière. La prière elle-même a, voilà, transforme et évangélise. Ensuite, adorer, c'est vivre la dynamique eucharistique, et donc c'est s'offrir. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 12, saint Paul écrit ceci. « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice saint, vivant, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la manière juste de lui rendre un culte. » En fait, l'Eucharistie nous invite à entrer dans le mouvement de Jésus qui s'offre au Père pour nous sauver. Et nous-mêmes, dans l'adoration, nous sommes invités à nous offrir, je ne sais pas comment vous vivez l'adoration, mais nous sommes invités à nous offrir au Seigneur dans l'adoration. Ça nous fait rentrer dans cette dynamique d'offrande. Adorer, c'est offrir, c'est s'offrir. Et le Concile Vatican II écrit « La Sainte Eucharistie contient tous les trésors spirituels de l'Église, à savoir le Christ lui-même, notre Pâque, le pain vivant, lui dont la chair vivifiée et vivifiant par l'Esprit-Saint, donne la vie aux hommes, les invitant et les conduisant, donc c'est l'Eucharistie, à offrir en union avec lui leur propre vie, leur travail, toute la création. On voit donc alors comment l'Eucharistie est la source et le sommet de toute l'évangélisation. Donc en s'offrant à Dieu, on permet que le Seigneur puisse se donner à d'autres. Et puis, il faut s'offrir jusqu'au témoignage, jusqu'au martyr, comme le Christ l'a fait. Parce que si le Christ est notre modèle, nous pouvons oublier qu'il s'est offert lui-même, il a donné sa vie. On ne lui a pas pris, il lui a donné. Le témoignage jusqu'au martyr, qui trouve sa source dans les sacrements de l'initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie, et donc dans l'adoration. Donc le baptême nous donne les trois fonctions que nous avons dit, hein, et puis nous met dans une attitude filiale. La confirmation fait de nous des adultes dans la foi prêts à donner leur vie, et pour le témoignage, prêts au martyr. Vous savez que martyr en grec, ça veut dire témoin, et ça veut dire martyr, celui qui verse son sang, c'est la même chose. Il n'y a pas de distinction entre les deux. Et donc quand on est, c'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que c'est difficile. Quand on évangélise, eh bien, il y a une dimension de martyr qu'il faut vivre. Ben, le martyr chrétien, c'est un martyr joyeux et j'allais dire agréable. En tout cas, Dieu est là, il nous accompagne. S'offrir à Dieu pour s'offrir aux autres jusqu'au martyr, comme témoin de la vérité de l'amour. Encore aujourd'hui, donc dans le monde, de nombreux martyrs, le XXe siècle a battu les records de martyrs, mais le XXIe siècle commence pas mal. Il faut dire que le XXe siècle a été très particulier parce qu'il y a vraiment eu des organisations pour tuer les hommes, hein, des machines de guerre, hein, des centres, des camps de concentration. Aujourd'hui, on a ça, mais c'est quand même moins présent. Mais par contre, il y a quand même beaucoup, beaucoup de martyrs dans beaucoup d'endroits du monde. Donc voilà. Mais nous-mêmes, nous sommes appelés aussi à nous offrir aux autres, à être des témoins pour les autres. Voilà, et je vais terminer encore par deux points, par l'évangélisation, par le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement exposé évangélise. Alors je vous donne simplement un témoignage. Vous connaissez André Frossard, au XXe siècle, hein, qui était un ami du bienheureux Jean, le bienheureux Paul VI, mais c'est un converti. Donc jeune athée, fils du premier secrétaire du Parti communiste français, nous livre un admirable récit de sa conversion. En visitant fortuitement une église, il vit au-dessus du maître-autel un vaste appareil de plantes, de candélabres et d'ornements qui était dominé par une grande croix de métal ouvragée, portant en son centre un disque blanc mat. Je n'avais jamais vu d'ostensoir habité, ni même, je crois, d'hostie. et j'ignore que je suis en face du Saint-Sacrement. La signification de tout cela m'échappe. Mais c'est alors que commence l'avalanche à rebours. Je ne dis pas que le ciel s'ouvre, il ne s'ouvre pas, il s'élance. Il s'élève soudain, fulguration silencieuse, évidence de Dieu, irruption déferlante de lumière, joie du naufragé. Tout est dominé par la présence de celui dont je ne saurais plus jamais écrire le nom sans que me vienne la crainte de blesser sa tendresse, devant qui j'ai le bonheur d'être un enfant pardonné, je suis catholique. Donc son passage, sa conversion, il l'a vécu devant le Saint-Sacrement. Alors, j'ai pris ce témoignage, il y en a d'autres qui ont pris ce témoignage, parce que il faut prendre conscience que l'adoration du Saint-Sacrement peut provoquer des conversions. Et il ne faut pas avoir peur de dire à des non-croyants, ben viens adorer. Ah ben, non, tu viens, tu restes devant le Saint-Sacrement, tu restes un quart d'heure, et puis après tu pars. Viens. On prie pour eux, et voilà. Et donc, c'est pour ça que pendant le festival missionnaire, l'adoration des Saint-Sacrements, du matin, de 8h du matin jusqu'au 22h le soir, l'adoration n'aura pas lieu ici, mais elle aura lieu dans la chapelle en face, chapelle Saint-Lien. Parce que justement, c'est la puissance de l'attraction de l'amour de Dieu manifesté dans l'Eucharistie, avec le Christ miséricordieux juste au-dessus, qui va attirer, nous le croyons, des âmes à lui. Donc c'est l'œuvre de Dieu, il a besoin de nous, mais c'est l'œuvre de Dieu. Voilà. Et l'adoration donc nous met dans un dynamisme missionnaire. Parce que comme dit l'épître de Jean, ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi. Nous sommes comme poussés, quand on adore le Seigneur, on est poussé, on a envie de le partager. C'est un peu comme quand on tombe amoureux, on a envie de le dire à tout le monde. Eh bien c'est le cas. Avant d'aller vers les autres au nom de Jésus, il faut d'abord venir à lui. Donc on vient à l'adoration pour ensuite pouvoir venir à lui. Il faut se laisser toucher et guérir afin d'être de vrais témoins de son amour. Il faut se laisser évangéliser avant d'aller évangéliser. Donc l'adoration nous permet tout cela. Pour être des vrais missionnaires, eh bien en fait, il nous faut adorer. En fait. Donc vous êtes les adorateurs, vous êtes les mieux placés pour être des évangélisateurs. Voilà, ce sera ma conclusion. Donc, compte sur vous, même si ça fait peur, même si ça craint un peu, comme on dit, il faut, le Seigneur a besoin de nous. Donc voilà, j'espère avoir pu montrer l'importance de l'adoration pour l'évangélisation, le fait que c'est vraiment le Seigneur qui évangélise, mais il a besoin de notre participation, de notre prière, il a besoin de nous. Et puis nous allons terminer donc ce petit temps de rencontre par la neuvaine pour le festival missionnaire. Donc vous avez vu, pour le festival missionnaire, il y a un site internet. Vous pouvez prendre connaissance de ce qui va être proposé. Petit à petit, il va être de plus en plus précis. Et puis aussi, il y a les possibilités de s'inscrire pour un service ou l'autre. Donc je vous encourage, tous les services sont importants, même les services qui font peur. Par exemple, aller évangéliser avec les franciscains du Bronx, dans les rues, le 8 décembre, après la messe du 8 décembre, il y aura un envoi dans les bars. Par exemple, c'est une super aventure. Je suis le premier à trembler, mais c'est pas grave. Voilà. Par exemple, il y a d'autres. Après, on peut ne pas se sentir à l'aise pour tout. Et ce qu'il faut, c'est distinguer ce qui est de l'ordre de la peur toute humaine, qu'il faut dépasser. Parce que voilà, c'est des craintes, c'est de l'orgueil, c'est un manque de conversion personnelle. Puis ce qui est vraiment lié à un appel personnel, un charisme personnel, où on est invité, comme dit saint Paul. Donc on le disait tout à l'heure, nous sommes le corps du Christ. Il y en a qui sont plus doués pour le service, d'autres plus pour l'annonce de la parole. Voilà, chacun doit trouver sa place et faire. Alors donc on n'est pas invité à tous faire tout à fait la même chose. Mais bon, c'est important de se poser la question et puis d'être un peu audacieux, de dépasser un peu nos propres hésitations et nos propres peurs toutes humaines. Donc il y a un petit discernement à faire, pas toujours facile. Il faut se risquer aussi, je sais qu'il y en a certains qui se risquent et puis qui voient, ben, ça finalement ça ne va pas, je sens que je ne sais pas faire, je ne suis pas à ma place. Voilà. Et donc on discerne comme ça aussi, on fait des essais. Puis... Et le festival missionnaire est aussi là pour ça, on fait des essais et puis voilà. Et certains vont se découvrir des vocations étonnantes d'évangélisateurs dans des milieux improbables. Il faut aller aux périphéries, nous dit le pape François. Donc ça, c'est compliqué d'aller aux périphéries, parce que les périphéries, on ne sait pas où elles sont, qu'on ne les voit pas. En général, on vit dans notre cercle. On voit notre cercle. On dit les périphéries, c'est mon cercle au bout du cercle. Le problème, c'est que ce n'est pas ça du tout. Parce que mon cercle au bout du cercle, c'est encore chez moi, en fait. Les périphéries, c'est au-delà. Et en fait, c'est compliqué. C'est pour ça que, par exemple, nos milieux sociaux, nos relations amicales, tout ça, c'est des cercles. En fait, ce n'est pas ça les périphéries auxquelles nous sommes invités à aller. C'est plus loin, un petit peu au-delà. Les périphéries, c'est... Quand on habite en centre-ville, c'est le lieu où on ne va jamais. Parce que justement, c'est pas fréquentable. Donc voilà. Donc, pourtant, il faut aller là. C'est ce que le Seigneur nous demande. Les chrétiens n'ont jamais été des gens qui se renfermaient entre eux. Ils se ressourcent entre eux. La messe, l'Eucharistie dominicale, les groupes de prière... Les groupes de réflexion, de formation, l'adoration, ils se retrouvent entre eux. Ils ont plaisir à les temps fraternels. Ils ont plaisir à se retrouver entre eux. Mais toujours pour être envoyés. C'est pour ça qu'on dit toujours à la messe, allez dans la paix du Christ, c'est un envoi en mission. Voilà. Bon. J'arrête. Ça fait une heure.